Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque jour d'ailleurs avec Perrine Suquet et Laure Broulard. Et c'est André Facetta qui est avec nous derrière la console technique de l'heure du crime. S'il avait fallu trouver un titre à cette émission, j'aurais bien dit, vous savez, on dit toujours la vengeance est un plat qui se mange froid. Dans le monde des services secrets, ça se mange parfois très 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 froid. Nous allons pénétrer ensemble grâce à mon invité Vincent Nouzi dans ce monde largement sulfureux des services secrets pour parler des assassinats et des opérations spéciales de ces services secrets. C'est un livre qui vient de paraître et qui a tout de suite évidemment attiré notre attention. Les tueurs de la République, Vincent Nouzi révèle dans ce livre un certain nombre de choses sur un groupe encore plus secret que les services secrets qu'on appelle le groupe Alpha. On va beaucoup en parler ensemble. Des tueurs professionnels à qui on donne comme mission, en fait, d'aller des assassinats ciblés. Bon, tout le monde a entendu parler de ça. Certains services secrets étrangers sont, paraît-il, très habitués à ce genre d'opération. La France, un peu moins. Bonjour Vincent Nouzi.
Bonjour Jacques.
Et merci alors d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes journaliste d'investigation, grand reporter. Vous avez entendu parler pour la première fois de ce mystérieux groupe Alpha. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous demande pas les noms et les adresses des gens qui se sont confiés à vous.
Non, bien sûr, ça je ne peux pas révéler mes sources. Évidemment, j'ai écrit ce livre après 3 ans d'enquête, extrêmement difficile. C'est une des enquêtes les plus difficiles que j'ai faites. Évidemment, le monde des services secrets est toujours très, très feutré.
Bien sûr.
Il ne se laisse pas comme ça facilement approcher. Il a fallu donc beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui me fassent confiance au fur et à mesure des entretiens, afin que je puisse obtenir un certain nombre de confidences en respectant l'anonymat, un certain nombre de mes sources, bien sûr, et plus particulièrement sur l'existence de cette cellule Alpha, dont j'ai été mis sur la piste par une petite affaire qui avait défrayé un tout petit peu la chronique à l'époque, qui était l'arrestation en Espagne.
Ah.
De deux agents. Une opération qui n'avait pas été éventée à l'époque, c'était en 2002. Agents de la DGSE ont été arrêtés en Espagne avec des armes de guerre en leur possession.
Ouais.
Donc la justice espagnole les a mis emprisonnés un temps. Et puis l'affaire a finalement transpiré dans la presse espagnole et dans la presse française en 2009.
Et l'État a dû réagir.
L'État avait dû réagir. Les deux agents avaient été discrètement libérés sur instruction, dans le fond, de la France aux Espagnols.
Mmh.
Et dans les carnets du fameux général Philippe Rondeau, dont on a beaucoup entendu parler dans l'affaire Clearstream.
Ouais, ouais.
Mais cet homme était un spécialiste du renseignement qui travaillait auprès du ministre de la Défense de l'époque, Michel Alliot-Marie.
Mm-hmm.
Et dans ces carnets, qui ont été révélés en partie dans l'affaire Clearstream, il était fait mention de ces alphas qui étaient arrêtés en Espagne.
Voilà.
Et évidemment, ces traces écrites était déjà une preuve que le mot alpha ne venait pas de n'importe où.
Ouais.
Et j'ai vu, évidemment, ça a attiré mon attention et j'ai absolument voulu savoir ce que recouvrait cette cellule alpha et j'ai remonté dans le temps pour obtenir, dans le fond, plus de détails sur l'histoire de cette fameuse cellule.
Alors, vous dévoilez un certain nombre de choses, on va en reparler, sur la création de cette cellule, sur la personnalité de ses membres, comment sont-ils choisis, quel genre de vie ont-ils, quels sont leurs rapports avec la hiérarchie, ou est-ce que c'est vraiment au plus haut niveau de l'État qu'on leur donne leur mission. Disons tout de suite que ce groupe Alpha, il naît en France, en tout cas, au milieu des années 80, après l'affaire du Rainbow Warrior. Et je pense à une chose, on va écouter un premier document RTL à une époque, 3 ans avant en fait la création de ce groupe. Et on va comprendre en écoutant ces documents d'époque qui sont dramatiques qu'un État peut difficilement rester sans réaction lorsqu'il se passe le genre de choses dont nous allons tout de suite évoquer le souvenir. Nous sommes en 1983, le 23 octobre. En 82, il y a eu un attentat contre l'ambassade de France au Liban, qui a fait 11 morts, à Beyrouth. Un an et demi avant, il y a un ambassadeur de France, Louis Delamarre, qui a été assassiné.
À Beyrouth également.
À Beyrouth également. Et le 23 octobre 1983, vers 6h du matin, heure française, à 6 minutes d'intervalle, 2 attentats vont avoir lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, donc quasiment simultanément. Le premier touche le siège des marines de l'armée américaine et la cible du second attentat, 6 minutes plus tard donc, vise l'immeuble Drakkar qui abrite de nombreux parachutistes français. On en parle tout de suite après, voir quelle était, si elle existait, la réplique de la France. Mais on savait déjà, quelques minutes après l'attentat, que le bilan allait être catastrophique. C'est ce que disait d'ailleurs, depuis Beyrouth, le journaliste Roger Guerchand, qu'on retrouvait dans RTL Matin à 7h30, donc 1h30 après les faits.
Deux explosions, deux très fortes explosions qui ont secoué la banlieue sud de Beyrouth et qui ont réveillé la ville. Elles se sont produites à 4h26 GMT. Et il est apparu par la suite que c'était l'immeuble qui abritait près de l'aéroport de Beyrouth le siège du commandement du contingent américain de la force multinationale et qui avait sauté, dont les 8 étages s'étaient effondrés. Et jusqu'il y a un quart d'heure, on avait retiré 42 corps de marines, 42 corps de marines et ceux de 3 civils. C'est l'explosion la plus meurtrière. Ensuite, il y a un immeuble où se trouve une unité française, un bataillon français de 66 hommes croatons, qui a formé de 4 étages, qui s'est également effondré. Et là, les informations sont contradictoires. Selon certaines, on a déjà retiré les corps de 10 soldats français. Selon d'autres, on n'a retiré que les corps de 2 seulement. On entend les cris de personnes qui sont coincées sous le décombre et les sauveteurs s'activent pour essayer de les dégager.
Alors le bilan final, on a d'abord parlé de 135 morts et puis le bilan définitif de ces deux attentats est terrible, beaucoup plus élevé que les premières estimations. Il s'élève à 220 marines américains et 58 paras français. Alors Vincent Nouzy, là, on est en 1983, mais il y a eu les événements qu'on a rappelés avant. Quelle est la réaction de l'État là? Les groupes Alpha n'existent pas encore, mais enfin la DGSE
existe. Bien sûr, elle a été renommée d'ailleurs DGSE en 82, et une série d'attentats effectivement ont émaillé la scène libanaise et parisienne, puisqu'il y a eu l'attentat de la rue Marbeuf en avril 82, il y a eu l'attentat de la rue des Rosiers en août 82, et en fait on sait qu'il y a une guerre secrète qui est menée contre la France par un certain nombre de gens qui dans le fond refusent que l'on joue un rôle, notamment au Liban. Et ce sont principalement dans le collimateur, ce sont les Syriens, la Syrie du président Assad, le père de l'actuel président.
Ouais, dont on pensait déjà à l'époque qu'ils avaient commandité l'assassinat de l'ambassadeur.
Voilà, donc il y a eu la mort de l'ambassadeur, l'assassinat de l'ambassadeur français à Beyrouth en septembre 1980, puis toute cette série d'attentats qui ont été perpétrés, et à chaque fois, on supputait que les commanditaires étaient du côté de Damas, du côté du régime syrien. Et donc, évidemment, cette série d'attentats avait déjà provoqué des premières répliques, notamment suite à la mort de l'ambassadeur de France, Louis Delamarre. Un certain nombre d'opérations menées par le service action de la DGSE sur ordre direct de François Mitterrand, donc de l'Élysée, ont été conduites, notamment une tentative d'assassinat d'un attaché militaire syrien en Espagne, l'effondrement d'un immeuble, un attentat contre un immeuble à Damas, et puis deux membres du commando qui avaient tué l'ambassadeur, ont été assassinés après fin 82.
Dans la plaine de la Bécane, je crois.
Voilà, quand survient ce fameux attentat de Drakkar, qu'il faut le rappeler, est le plus meurtrier de tous les temps pour l'armée française, et y compris, on a vu les attentats récents à Paris, là, 58 morts, 58 soldats tués dans un seul attentat. Donc c'est l'attentat qui choque évidemment tout le monde. Et dans le plus grand secret, François Mitterrand décide qu'il va répliquer.
Alors on va parler de cette réplique avec les moyens utilisés à l'époque dans un instant, puis vous allez nous dire ensuite comment est née l'idée du groupe Alpha et comment on a sélectionné ces gens qui sont vraiment, d'après ce que j'ai compris en lisant votre livre Les Tueurs de la République, des électrons libres dans le monde des services secrets.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, donc, les tueurs de la République, c'est le titre du livre Enquête que publie Vincent Nouzi, qui vient d'être publié aux éditions Fayard et qui lève le voile sur un bon nombre de secrets maison, si j'ose dire, dans le domaine des services secrets. On a là évoqué ce qui s'est passé au Liban et il y a eu des répliques, vous racontez dans votre livre d'ailleurs, après l'attentat contre l'ambassade de France à Beyrouth.
Oui,
on a
déjà
envoyé des équipes, voilà.
Oui.
Mais on voit d'ailleurs à vous lire que c'est extrêmement complexe comme opération à monter. Quoi, hein.
Après l'attentat du Drakkar, donc, ouais. François Mitterrand décide de répliquer. Mmh. Et pour ça, il va mobiliser le service Action, qui est le bras armé donc, de la DGSE, de nos services secrets. Une équipe d'une vingtaine de personnes, une vingtaine d'agents, plutôt des militaires, hein, sont envoyés en toute urgence à Beyrouth. Mmh. Et sur place, dès le soir même d'ailleurs, ce qui va conduire probablement à une forme de précipitation,
ouais. Hein,
d'improvisation, ils vont être envoyés parce que la France considère que c'est l'Iran qui est le commanditaire de l'attentat contre l'immeuble du Drakkar à Beyrouth.
Donc on va organiser
un contre-attentat contre l'ambassade d'Iran, voilà. À Beyrouth. Ouais. Et cette opération qui échoue une première fois, le premier soir, ouais. Mitterrand réinsiste dès le lendemain matin pour que l'opération soit renouvelée le soir même, parce qu'il, mmh. en fait, il y a une espèce de compétition, il craint que les Américains ne frappent avant lui,
ouais.
Notamment avec des bombes guidées au laser.
Ouais.
Et donc il veut que ce soit la France qui signe cette riposte.
Ouais.
Et puis l'équipe du service action est envoyé une deuxième fois, la deuxième nuit, et là, il y a un comble de malchance, les détonateurs ne marchent pas, le commando revient sur place, échoue à nouveau en tirant au bazooka sur la Jeep bourrée de 600 kilos d'explosifs qui devaient pulvériser donc l'ambassade. Donc
ça
double échec.
Pas non plus, ouais, double
et donc
échec.
Finalement, Mitterrand est furieux, d'ailleurs il aura une forme de méfiance à l'égard des services secrets, une partie de l'échec que l'on connaîtra ensuite, c'est l'affaire du Rainbow Warrior en 85, est en partie liée dans le fond à cette première échec à Beyrouth, qui le marque très profondément.
Ouais. Enfin là, on n'est pas dans le Rainbow Warrior, il n'y a pas d'improvisation de dernière minute, ce sont des gens fatigués, qui n'ont pas dormi depuis plusieurs nuits.
Ils n'ont pas dormi pendant trois nuits.
Qui ont une pression énorme sur les épaules, parce qu'on veut absolument qu'ils fassent en quelques heures ce qu'on met en général un peu plus longtemps à monter comme opération.
Ce genre d'opération nécessite plusieurs mois de préparation en général.
Il y a la malchance.
Il y a un peu de malchance, mais ce sont des gens qui étaient déterminés à frapper, qui avaient un ordre précis de Mitterrand pour une riposte suite à l'attentat du Drakkar. L'opération échoue et j'ai pu retrouver un certain nombre de témoins de cette opération qui étaient là, qui étaient membres de ce commando, et pour la première fois, donc ils racontent l'histoire en direct.
Alors, maintenant, on passe quelques années, donc le Rainbow Warrior, tout le monde s'en souvient, on en a parlé
d'ailleurs. C'est un sabotage. Ce n'est pas une opération d'assassinat, c'est un sabotage d'un bateau de Greenpeace.
Mais ça tourne mal parce qu'on a mis deux bombes à bord, une pour faire fuir les gens du bateau et une autre pour le détruire. Et puis,
il y a un photographe qui est revenu à bord. Et voilà, il y a un mort dans cet attentat. Ouais. Et surtout, ça provoque évidemment un scandale.
Le ministre qui démissionne.
Charles Hernu, ministre de la Défense, démissionne. Ouais. Le directeur de la DGSE est obligé, lui aussi, de remettre sa démission.
Ouais.
Et dans le fond, l'identité. En gros, les services français, la DGSE, passent vraiment pour des pieds nickelés. Ils se sont fait prendre comme des bleus dans cette affaire.
Alors, qui décide de monter un groupe plus secret ou, sur qui on puisse plus compter? Que sur
alors en fait, il s'agissait d'une mesure de sécurité et de protection, parce que dans l'affaire du Rainbow Warrior, les deux agents qui avaient été arrêtés en premier à Auckland par la police néo-zélandaise, dans le fond, la police avait découvert très très facilement l'identité réelle de ces et donc remonté à Paris et au service secret français. Donc plus jamais ça, c'est la règle après l'affaire du Rainbow Warrior. Et pour protéger les opérations en cours, et notamment les opérations les plus sensibles, comme les assassinats, eh bien, il faut créer une cellule ultra protégée, ultra clandestine, qui n'aura quasiment pas de compte à rendre, qui sera composée de gens déterminés, qui n'auront quasiment aucun contact avec la DGSE. C'est la raison pour laquelle les chefs du service action de cette époque décident que pour tout ce qui est assassinat, on va confier ça à une cellule qu'on baptisera Alpha dans le plus grand secret.
Voilà, puisque même les membres du service action ne les connaissent pas. Ou les connaissent, mais ne savent pas ce qu'ils font.
Absolument. Voilà. Donc c'est extrêmement compartimenté. Ça, c'est plutôt une qualité des services secrets. Et c'est normal que chacun n'a à connaître que ce qu'il a à connaître.
Ouais.
Et donc, au sein même du service action, ces gens-là sont mis à part, ont été mis à part dès le départ.
Ouais.
et ils ont eu un fonctionnement complètement particulier, hors normes et hors hiérarchie.
Voilà, alors évidemment, on fait une sorte de portrait robot psychologique de la bonne personne. On ne veut pas des fous furieux qui dégainent pour n'importe quoi, on veut des gens qui obéissent aussi, il faut bien le dire, et qui soient prêts finalement à aller vraiment jusqu'au bout, quelle que soit la nature de la mission.
Oui, alors pour ça, on prend des profils plutôt de militaires, mais de gens qui ont une capacité à avoir une vie normale, donc une double vie en quelque sorte. Oui. C'est ce qu'on appelle dans les services secrets une légende, une identité fictive, mais très longue, qui puisse durer des années et tenir quelles que soient les circonstances.
Donc ils ont un job.
Donc ils ont un job.
Leur famille, ils en ont une, n'est pas au courant.
Au début, c'était plutôt des célibataires parce qu'avoir une double vie, c'est compliqué que lorsqu'on est marié, évidemment. Ouais. Et puis ça va évoluer dans le temps. C'était toujours un petit groupe. Ils n'ont jamais été plus d'une dizaine de ces agents. Certains ont tenu très très longtemps, d'autres moins longtemps, parce que c'était psychologiquement assez difficile.
Et il faut qu'ils soient prêts à tout moment, en fait.
À intervenir à l'extérieur du territoire français, on est bien d'accord. Mmh. C'est là que la DGSE intervient à l'extérieur pour des opérations qui sont décidées en plus haut lieu, c'est-à-dire à l'Élysée, par le président de la République, avec une commande qui part de l'Élysée, qui va au patron de la DGSE, et le patron
contacte directement
le chef de cette petite cellule, et les contacts sont pris de manière à ne jamais pouvoir remonter à l'Élysée, à la France.
Donc il n'y a pas de trace écrite.
Pas de comptabilité.
Il n'y a pas de comptabilité. Il n'y a pas de rapport d'après-mission.
Voilà, absolument.
Et alors il y a une chose quand même que j'ai trouvée, moi, qui m'a beaucoup frappé en vous lisant. Parce que c'est presque un peu pervers quand même, je trouve, moi, comme décision. Ces gens ne savent jamais si l'opération qu'ils commencent, dans laquelle ils commencent à agir, est un entraînement ou une réalité.
En réalité, on les a mis en condition, en permanence, de conditions réelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient jamais au courant, ils ne sont jamais au courant de savoir si c'est un entraînement ou une vraie mission. Donc, jusqu'à la dernière seconde, à la limite, ils pouvaient découvrir une cible ou pas de cible du tout. Par exemple. Donc,
parce qu'ils sont évidemment alimentés en informations, ça c'est...
Voilà, ils reçoivent des dossiers d'objectifs suite à des longues reconnaissances à fin d'action, ce qu'ils appellent en langage une RFA, une reconnaissance à fin d'action. Ouais. Le dossier leur est transmis, eux ils reçoivent le dossier, et c'est à eux d'exécuter. Mais jusqu'à la dernière seconde, ils peuvent recevoir un contre-ordre, ne pas faire cette opération si, par exemple, les conditions, les cas non conformes, par exemple, se sont présentés. La personne n'est pas là, un événement impromptu a gêné le dispositif.
Alors on va dans un instant, après une nouvelle pause, raconter quelques affaires dont vous évoquez dans le livre. Et on retiendra que, évidemment, ce genre de décision se prend au plus haut niveau de l'État. Tous les chefs d'État, je crois, qui se sont succédés, n'ont jamais... c'est pour ça que je parlais de tabou tout à l'heure.
Personne n'a jamais avoué publiquement qu'on ordre de tuer. Ça,
mais vous allez encore plus loin dans votre livre, puisque vous dites que vous parlez d'une liste d'objectifs secrets qui ne quittent pas apparemment la poche du président Hollande.
Alors, je ne sais pas s'il a dans la poche, mais...
On verra. Bah, à mon avis, il ne la laisse pas traîner sur la table de nuit, quand même.
C'est clair.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, le journaliste d'investigation Vincent Nouzi, qui publie aux éditions Fayard, Les tueurs de la République, une enquête menée donc sur l'existence de ce fameux groupe Alpha, enfin fameux depuis que vous en parlez, Vincent Nouzi.
Personne
n'en parlait, évidemment. Et bon, alors il y avait bien eu ce que vous avez raconté tout à l'heure, cet accro au cours d'une mission
en Espagne en 2002, effectivement, deux de ces agents sont arrêtés et ça provoque un peu de panique d'ailleurs à la DGSE
Mais enfin on peut dire qu'ils avaient peut-être été mal choisis non quand même parce qu'ils ont
ils ont
pas tenu compte des règles normales. Il y en a un qui avait deux jeux de papiers d'identité, les vrais et les faux.
Et il était accompagné de sa vraie épouse qui évidemment le reconnaît avec sa vraie identité, donc est confondu assez facilement par les policiers espagnols et ça va provoquer un peu de secousse au sein de la maison parce que visiblement toutes les règles de sécurité n'avaient pas été respectées.
Tout le monde savait à la DGSE depuis depuis le milieu des années 80 qu'il y avait ce groupe, alors
Très peu de gens à la DGSE étaient au courant de l'existence de cette cellule. Ouais. Au sein même du service action, ces gens-là étaient mis à part. Mmh. On a même des témoignages de gens qui disent qu'ils ne fréquentaient pas même pas la même cantine au centre d'entraînement de Sercotte.
De Sercotte, oui.
Près d'Orléans, qui est vraiment un des centres du service action. Ouais. Donc ils étaient totalement mis à l'écart.
Tout était cloisonné,
service,
quoi, en fait. Ouais.
Donc pour une vie clandestine, complètement. Et avec des missions précises, qui sont des missions soit de flingage, on va dire, ou de préparation de flingage, éventuellement des avertissements.
Ça, c'est la loi du talion, ça, quoi.
Ce sont des interventions très exceptionnelles, il faut le dire. On flingue pas, la République ne flingue pas tous les matins. Ouais. D'autre part, on n'intervient que si on a un feu vert qui vient du plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire de l'Élysée et du patron de la DGSE, deuxièmement. Et puis, troisièmement, après une minutieuse préparation qui peut prendre plusieurs mois à chaque fois.
Avec quelquefois des feux rouges au bout.
Avec des feux rouges, éventuellement, si l'opération ne se déroule pas comme prévu, ou si, au dernier moment, le pouvoir politique décide de ne pas faire.
Et alors, vous avez dit, mais vous l'avez dit un peu vite, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes là-dessus, une autre des missions, en dehors des missions vraiment homo, puisque
on appelle ça homo pour homicide.
Homicide, opération homo. Il y a également, disons, le rôle d'aller... porter un message, finalement.
Oui, alors, la plupart du temps, ces missions ne sont faites pour sans laisser de trace, aucune trace.
Quelquefois, on en laisse volontairement. Quoi.
Et parfois, on en laisse volontairement de manière à lancer un avertissement, dans le fond, à quelqu'un. C'est arrivé notamment à certains criminels de guerre en Serbie, qui ont été avertis, entre guillemets, par des traces sur leur véhicule.
Ouais. Qui valait mieux qu'ils se présentent à la justice internationale.
Il fallait mieux qu'ils se rendent, ou il fallait mieux qu'ils se calment un peu, etc.
Ouais. Alors, au standard téléphonique, 32-10. Il y a un certain nombre d'auditeurs qui nous demandent, et notamment Michel, qui vous a appelé de Caen, est-ce que les membres de ce groupe Alpha peuvent intervenir pour la libération d'otages français ?
Alors, la négociation des otages, c'est pas trop de leur ressort, puisque eux, ils sont un tout petit groupe, et ils sont un peu dispersés dans la nature, et ils ne s'occupent en gros que des assassinats.
Eux, on les enverrait plutôt...
pour régler le compte
pour
après.
Pour régler les comptes après, c'est ça.
Voilà.
Oui, parce que tout le monde a en tête, par exemple, ce qui s'est passé en Somalie. On va parler un peu de François Hollande, puisqu'on a dit que vous révéliez qu'il avait cette liste. On a envie d'en savoir un peu plus. Mais donc, la mort de l'otage, d'ailleurs, de la DGSE...
L'agent,
Denis Alex. À l'époque, François Hollande a décidé qu'il fallait une réplique, quand même. Et on avait le nom du principal chef
des Chebabs somaliens, qui s'appelait Godane, qui s'appelait Ahmed Godane.
Et ça s'est très mal terminé pour lui.
Voilà, ça s'est terminé un an et demi après donc l'échec de la récupération de l'otage et la mort de deux membres de commando du service action en janvier 2013 en Somalie. François Hollande a bien décidé de répliquer. On a tracé, la DGSE a tracé et suivi et surveillé le plus près possible ce chef des Chebabs somaliens. Et au dernier moment, lorsqu'il a été localisé, l'information a été transmise aux Américains, qui, eux, disposent de drones armés depuis leur base de Djibouti.
Les fameux prédateurs.
Voilà, les prédateurs, ou de chasseurs de bombardiers, d'avions de chasse, qui sont allés surprendre Ahmed Godane dans sa voiture. Et en septembre dernier, donc il y a cinq mois, ce chef Chebab, qui était réputé donc commanditaire de la prise d'otage de Denis Alex et de la mort donc des deux autres agents, a été tué par cette frappe américaine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, dans certains cas et aujourd'hui, des coopérations peuvent intervenir entre les Français et les Américains. On dit, les Français, c'est pas très bien d'avoir des drones armés parce que les Américains en font n'importe quoi avec. Mais quand on n'a pas, nous, les moyens de frapper, eh bien, on demande aux Américains de le faire à notre place.
Ouais. Aux Américains ou aux Tchadiens.
Ou aux Algériens, dans certains cas. Je raconte notamment comment on a vengé indirectement
les moines.
Les moines de Tibérie en 96.
Ouais. Et on va parler de Zitouni.
Oui, Zitouni, c'était le chef du GIA, donc le groupe islamique armé, qui était le grand responsable djihadiste en Algérie, qui menait la guerre contre le pouvoir algérien, et qui était responsable d'un certain nombre d'attentats en France. On se souvient des fameux attentats de 95, la grande campagne, le GIA était responsable, et puis la prise d'otages, le kidnapping des sept moines de Tibérine, qui sont assassinés donc en mai 96. Et quelque part, on croit savoir que que Zitouni est le responsable de cet enlèvement. Mm-hmm. Et les Français, via la DST, demandent aux Algériens de régler ce compte.
Et le 27 juillet 1996, le GIA annonce la mort de son ancien chef. Et sur RTL, Hassan Zerouki, le correspondant de RTL à Alger, dresse le portrait de ce terroriste, et il répond aussi aux questions de Myriam Lahaye.
Ce n'était pas du tout un intellectuel, c'était un vendeur de poulets. C'est quelqu'un qui a pris la tête du GIA en octobre 94, mais Jamel Zitouni s'est fait connaître surtout en juillet 94, lors de l'assassinat des 4 gendarmes français à Alger. Alors, il avait commencé par le détournement de l'Airbus d'Air France sur l'aéroport d'Alger. Par la suite, il a exporté le terrorisme avec la vague d'attentats qui a sévi durant l'été 95. Le début de la fin de Zitouni a commencé en septembre 95, lorsqu'il a liquidé les deux chefs clandestins du fils, Mohamed Saïd et Abderrezak Rejem.
Est-ce qu'on peut penser que l'exécution des 7 moines français a pu conduire certains de ses amis islamistes à le lâcher ?
C'est une hypothèse, oui, parce que sur le sort des 7 moines, on sait qu'il y avait des divergences au sein même du GIA. Et puis, dernière étape, c'est que Zitouni lui-même a été évincé le 14 juillet dernier. À partir du moment où il a été évincé, et il était peut-être beaucoup plus facile à l'armée algérienne de le traquer, de le liquider.
Alors nous allons faire une pause dans cette émission. On retrouve Vincent Nouzi dans quelques instants. Et on va parler d'autres opérations tout à fait spectaculaires, et notamment de ceux qui ont, je sais pas comment il faut appeler ça, une sorte de baraka incroyable. Ça a été le cas du terroriste Carlos.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Oui, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission, la vengeance est vraiment un plat qui se mange froid, mais parfois on n'arrive pas à le manger. C'est ce qui s'est passé avec le terroriste Carlos. On va d'abord entendre un document RTL, et puis ensuite avec Vincent Nouzi, on va vous expliquer le nombre d'opérations qui ont été soit ratées, soit tout simplement annulées pour des raisons dont vous parlez dans votre livre. Là, nous sommes le 15 août 1994. Ce jour-là, c'est vraiment l'information qui fait la une de tous les médias. L'arrestation de Carlos au Soudan, on pourrait parler d'enlèvement, aussi on y reviendra dans un instant. C'est quand même un homme qui est recherché par la France depuis de très longues années. Et alors qu'il est en route en avion pour Paris, Laurent Pérard donne sur l'antenne d'RTL les premières explications sur cette opération spectaculaire.
L'arrestation a lieu au Soudan, dans une maison à Khartoum que Carlos avait louée avec plusieurs personnes. Les activités et le comportement de ce groupe ont très vite été remarqués par les services de sécurité soudanais. Il semble d'ailleurs que Carlos et ses compagnons avaient l'intention de mener des actions terroristes contre des institutions étrangères au Soudan. Peu de précisions sur le moment et les conditions exactes de l'arrestation, mais Carlos serait déjà aux mains du gouvernement français. Après son arrestation, il a été remis à Interpol et extradé à la demande des autorités françaises. Carlos était parvenu à entrer en territoire soudanais à l'aide d'un faux passeport diplomatique, retrouvé sur lui au moment de son arrestation. Il avait ensuite résidé quelques jours dans un grand hôtel de Khartoum avant de louer la maison où il a été repéré.
Alors, là, on est en 1994, Vincent Nouzi. On en sait un peu plus sur l'opération maintenant. C'est pas du tout le service action de la DGSE.
Ça aurait pu être la DGSE qui intervienne, qui fasse cette opération. En l'occurrence, il y a une compétition entre les services secrets et notamment la DST, donc les services intérieurs, la sécurité de contre-terrorisme, contre-espionnage, pardon, qui, depuis 1975, année durant laquelle deux policiers de la DST ont été tués par Carlos. Évidemment, la DST est sur les dents. Ils le cherchent, etc. Mais cette traque va durer 19 ans avant qu'on les Français finissent par mettre la main dessus, avec l'aide de renseignements américains qui l'ont localisé au Soudan, d'un deal passé entre la DST et les autorités soudanaises de cette époque, qui voulaient se faire bien voir de la France. Et puis donc, on laisse faire ce kidnapping, en réalité, cet enlèvement, cette arrestation par les Soudanais. Et il est livré dans un avion qui, avec des policiers de la DST, qui accompagne Carlos jusqu'en France, où il sera donc déféré devant la justice et condamné pour un certain nombre d'opérations dont il était responsable.
On avait essayé ou pas de l'assassiner ?
Oui, on a essayé plusieurs fois de l'assassiner. Ouais. La première fois, c'était en 1976, donc un an après le fait qu'il il était en fuite, il était en cavale.
Donc ça, c'est sous la présidence de Giscard d'Estaing.
Il avait été repéré à Alger. Giscard avait donné un feu vert pour le tuer ou le kidnapper si l'on pouvait. En 77, il est repéré, on tente de le piéger en Colombie, c'est des agents du service action de la DGSE là, qui sont en première ligne, dont le fameux général Rondeau, qui va traquer cet homme, il va quitter la DGSE, il va rejoindre la DST, donc c'est lui qui va suivre ce dossier pendant presque deux décennies. Et au moment où il est repéré au Soudan, c'est une information que je révèle, il y a un débat au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur, de Charles Pasqua. Il y a ceux qui sont pour tuer Carlos tout de suite au Soudan par une opération Homo, et ceux qui sont pour l'enlever, si je peux dire, le ramener en France,
le déférer devant la justice.
Et Pasqua tranche pour l'arrestation. Et voilà, donc pour une fois, Pasqua a tranché. Il avait toujours dit qu'il terrorisait les terroristes. Là, il l'a renvoyé devant la justice.
Alors, évidemment, on parlait tout à l'heure de l'attitude des différents présidents de la République. Donc, Giscard d'Estaing, vous diriez quoi par rapport à ces opérations Homo, donc
Plutôt des feux verts, avec un service action extrêmement puissant, qui avait une grosse marge de manœuvre. Le SDEC de l'époque, c'est l'ancêtre de la DGSE, a été dirigé par Alexandre de Marange, qui avait une grosse latitude d'action pour ce type d'opération. Et on parle de Giscard avec une mentalité de chasseur, tueur au sang-froid. Il voulait tuer, par exemple, Kadhafi. Je raconte l'histoire à la fin.
Il voulait, c'est plus fort ce que vous dites. Il a donné un jour une instruction disant qu'il fallait tuer cruellement.
Cruellement, voilà, c'était ses mots. Il a ajouté ça en marge de notes dont je révèle la teneur.
Donc très accrocheur et très rempli de cette mission, disant la France doit se venger.
Doit faire la guerre,
faire la guerre à ces gens.
Mitterrand, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus louvoyant sur ces questions-là. C'est-à-dire il laissait
faire. Aller dans son bureau lui dire, monsieur le président,
est-ce qu'on pourrait régler tel compte ou faire telle opération. Il répondait, si vous le jugez utile. Donc c'était au directeur de la DGSE de l'époque de s'en accommoder. Il a donné deux ordres éventuels d'exécution presque formels. C'était Carlos et un autre terroriste qui était Abou Nidal. Et ces deux n'ont jamais été finalement tués par la France.
Mais il y a eu
une négociation avec lui.
Une négociation dont vous parlez dans.
Donc Mitterrand, beaucoup plus louvoyant, mais prêt à agir quand il le fallait, en disant toujours si ça échoue, je vous désavoue.
Alors, on remonte le temps, on va faire une pause. On va parler de Jacques Chirac. Je les prends chronologiquement, là, puisqu'on vient de parler de François Mitterrand. Après Mitterrand, Chirac. Après, il y aura Sarkozy. Et après, on reviendra, évidemment, au président Hollande et à cette fameuse liste, parce qu'on voudrait quand même en savoir un peu plus. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Vincent Nouzy est mon invité. Vincent Nouzy est journaliste. Il vient de boucler une enquête de plusieurs années sur l'existence de ces fameuses opérations Alpha avec ces tueurs professionnels, ces tueurs à gages, mais qui agissent au nom de la France, au nom de la raison d'État, de la République. Voilà. Les tueurs de la République, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître donc chez Fayard. Et je sais si vous révélez on peut pas tout dire. Là, c'était pas l'idée non plus, mais je voudrais qu'on s'arrête quand même un peu sur le personnage de Jacques Chirac, puisque on avait commencé à parler de l'attitude des différents présidents de la République. Alors il y a un événement qu'il faut resituer dans le temps et qui est la raison peut-être pour laquelle Chirac s'est toujours méfié, notamment de la DGSE. Là, le document RTL que vous allez entendre, c'est date du 7 juin 2008. Ce jour-là. Et c'est une première. Deux perquisitions sont menées par un juge tahitien à Paris. La première perquisition, c'est dans le bureau de l'avocat de Jacques Chirac. Et l'autre perquisition, c'est à la DGSE. Et ce juge tahitien enquête sur un supposé compte bancaire de Jacques Chirac au Japon et aussi sur la mort suspecte d'un journaliste dont le juge pense qu'il s'apprêtait à faire un certain nombre de révélations. Alors, avant d'en parler, on écoute les explications que donnait ce jour-là, parce que tout le monde en parlait, bien sûr, de ces perquisitions, les explications sur RTL de Jérôme Florin.
Cette affaire, c'est le serpent de mer qui enquiquine Jacques Chirac depuis 2001. Un serpent contorsionniste, puisque vous l'avez dit. Il s'agit aujourd'hui d'un juge de Tahiti perquisitionnant à Paris sur un supposé compte au Japon. Comment en est-on arrivé là? Et bien par l'enquête du juge tahitien Jean-François Redonnet, qui travaille depuis plusieurs années sur la mort mystérieuse d'un journaliste dont le corps a été retrouvé flottant au large de la Polynésie française. Ce journaliste avait découvert des transferts de fonds suspects concernant Jacques Chirac, des informations dont a eu également connaissance la DGSE, qui aurait même réussi à chiffrer en plusieurs millions le contenu de ce supposé compte japonais. Voilà pourquoi le juge est venu cette semaine à Paris perquisitionner d'abord les services secrets, puis le bureau de l'avocat de l'ancien président de la République. À ce dernier, il réclamait un document prouvant l'inexistence de ce fameux compte japonais. Mais maître Jean Veil, joint par Clément Grèze, a refusé de se soumettre.
Vous demandez, faudrait nous donner un papier. J'ai dit, le papier, il a été publié dans le Point. Je ne peux pas vous donner un papier que vous avez déjà. Non, mais on voudrait le papier. Je lui ai dit, je ne peux pas vous le donner, le secret professionnel me l'interdit. C'est pas que ça m'embête de vous le donner, parce que ce papier est très très bon pour mon client. Mais je n'ai pas le droit de vous le donner, et même mon client ne peut pas me dégager du secret professionnel.
Par ces perquisitions spectaculaires, le juge veut en tout cas montrer qu'il maintient la pression sur cette affaire de compte japonais. Ces perquisitions surviennent en tout cas à un moment pour le moins inopportun pour Jacques Chirac, qui pensait un peu oublier les ennuis en lançant sa fondation en début de semaine prochaine.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on vient juste d'entendre, juste avant l'instantané de Marie Guerrier, Vincent Nouzi, donc le rappel de cette affaire.
Un feuilleton en rebondissement, bien sûr.
Agacé voilà. Pendant des années, Jacques Chirac. On ne va pas rentrer dans cette affaire-là, mais c'est la raison pour laquelle il a été très méfiant. Il pensait qu'il y avait
un complot au sein de la DGSE contre lui.
On était en
2001, en fait. En 2001, donc il avant de cette supposée enquête de la GHE sur un présumé compte japonais dont il serait bénéficiaire. Et dès cette époque, en fait, dès les attentats du 11 septembre, c'est concomitant, ça se passe au même moment. Il doute, en fait, de la loyauté, en quelque sorte, de la DGSE. Il va finir, d'ailleurs, par éjecter le patron de la DGSE de l'époque, quelques mois plus tard, et un certain nombre de gens dans la maison. Et dans le fond, il y avait cette méfiance à l'égard des services, qui était antérieure d'ailleurs, mais qui n'a fait que se renforcer à l'aune de cette affaire. Et puis, dans le fond, une assez grande prudence aussi de Jacques Chirac sur toutes les opérations des services secrets.
Voilà, même il le dit aussi, enfin les opérations vraiment pour tuer des gens, il dit
mais
ça rentre pas
pour nous.
Alors,
je cite d'ailleurs petite note dans laquelle il dit...
Il fait quelques entorses quand même.
Nous ne sommes pas compétents pour faire ça, mais les Américains, oui. Donc, en gros, si on ne peut pas le faire, on peut peut-être demander un petit service.
Nicolas Sarkozy.
Alors Nicolas Sarkozy, lui, était assez peu au courant et assez peu formé. Et il n'avait pas de préjugés à l'égard des services secrets, ni même des militaires.
Pardonnez-moi, quand un président, j'allais dire, est intronisé, on n'est pas... quand prend ses fonctions... Le président précédent lui dit bon, il y a aussi
un certain nombre de choses.
L'opération Alpha.
Je suis pas sûr qu'il parle. Je suis pas sûr qu'il soit au courant. Ouais. C'est plutôt du ressort et de la responsabilité du patron de la DGSE de l'informer cas de besoin. Voilà. De l'existence de cette cellule dont il n'a pas forcément à connaître tous les détails
c'est aussi bien
Sarkozy lui va plutôt s'appuyer sur les forces spéciales de l'armée qui au fur et à mesure des années donc à partir de 2008 puis 2010 un certain nombre de prises d'otages au Sahel et la montée en puissance de la menace d'ACMI au Sahel la menace djihadiste eh bien il y a des premières rétorsions des actions de vive force comme on dit qui vont être menées par des forces spéciales certaines vont échouer d'ailleurs lorsque deux jeunes Français sont pris en otage au Niger, en janvier 2011, il y a tout de suite un raid des forces spéciales qui échoue, les deux otages meurent, mais finalement on a appris en décembre que des forces spéciales françaises ont finalement exécuté le commanditaire de cette prise d'otage. Donc 3 ans après les faits, la vengeance est un plat qui se mange toujours les Français, et François Hollande en l'occurrence, a décidé ce type d'opération.
Donc ça c'est une permanence, c'est-à-dire en fait, les présidents peuvent changer, mais...
Alors ce qui est très nouveau, et ce que je raconte dans le détail dans le livre, c'est que on est passé avec François Hollande à un systématisme dans la décision d'opérer soit avec la DGSE, soit avec les forces spéciales de manière semi-clandestine, soit éventuellement d'avoir recours aux Américains. Donc François Hollande est de loin... le président qui assume le plus ces opérations clandestines de manière assez les plus violentes et certains m'ont dit d'ailleurs très étonnés que ça rappelait la guerre d'Algérie quoi.
Oui, mais Je vais plus loin, mais c'est ce que j'ai compris en vous lisant. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il va plus loin aussi, François Hollande, puisque les autres présidents, ben, ils disent oui ou ils disent non, mm-hmm. ils s'accommodent ou ils ne s'accommodent pas. Mais lui, quand vous parlez d'une liste, il aurait établi lui-même une liste et c'est il est demandeur ou,
C'est voilà, pas lui qui l'établit. En tout cas, ouais. au moment où se sont engagés un certain nombre d'opérations, soit des attentats, soit des prises d'otages, soit évidemment la menace djihadiste qui avait,
qui avait justifié l'opération. Ce qu'il veut, c'est que les gens qui s'opposent à la France ou qui attaquent la France sachent que
il peut y avoir
pas impuni quoi.
Voilà, c'était un principe que le Mossad, le service israélien, que la CIA maintenant pratique de manière courante. La France ne le faisait pas de manière systématique. Elle avait toujours des craintes que ça se fasse, que ça se retourne un peu contre elle. Finalement, depuis François Hollande, on peut dire que la France réplique de manière systématique.
Un dernier mot, Vincent Nouzi, j'en reviens là à l'humain, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire aux gens qui composent ce service où il n'y a pas beaucoup de monde. Ils tiennent le coup longtemps, à votre connaissance. Ils restent en activité pendant. Est-ce qu'on peut aller tuer comme ça, comme on va au bureau?
Je pense que c'est compliqué pour eux. Il y a une forme de schizophrénie à mener des doubles vies. C'est aussi compliqué pour les gens des forces spéciales qui opèrent dans des conditions parfois compliquées, semi-clandestines également. Ouais. Donc il y a des cellules d'aide psychologique pour ces tueurs qui agissent au nom de la France et qui, évidemment, peuvent avoir des difficultés pour assumer des opérations qui parfois se passent en temps de paix dans des pays lointains, sur des cibles qu'ils n'ont absolument pas choisies.
Je vous remercie, on ne va pas aller plus loin. D'ailleurs, je voudrais quand même que ceux qui vous ont écouté découvrent par eux-mêmes, en lisant votre livre qui vient de paraître chez Fayard, Les tueurs de la République, un certain nombre d'autres éléments, d'autres révélations d'ailleurs. Et puis, évidemment, vous parlez aussi de Kadhafi, évidemment, vous parlez aussi d'un certain nombre d'autres opérations. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que nous avons, nous aussi, Français, fait la chasse à Ben Laden?
Oui, bon, on a fait la chasse.
Il y a des réponses, il y a des réponses dans le livre. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Jacques.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est terminée. Et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques instants.